Merci, merci. Faites passer au boudron, s'il vous plaît.
Merci.
Merci. Merci.
Et sinon, toi, t'as quelqu'un de ta famille qui était ici, qui t'a bourré le crâne avec ou pas?
Non, pas du tout. C'est ma CPE qui m'en a parlé pour que je postule.
Sérieux, tu connaissais pas Cécile avant?
Non, j'ai un pote de Paris, en fait. Ah.
Les héritières, c'est le film dont est tiré cet extrait. Réalisé par Laure-Elisabeth Bourdeau en 2021, il raconte l'histoire de Sanou, une élève brillante du 93, qui débarque au très réputé lycée Henri IV. Ce qu'on vient d'entendre, c'est sa première rencontre avec ses futurs camarades. Pour elle, c'est un peu le choc des cultures. À l'entrée du lycée, on peut lire « Henri IV, une maison pour tous », mais est-ce vraiment le cas? Le lycée accueille des classes préparatoires aux grandes écoles, des CPGE. Il y en a partout en France, et pour beaucoup, c'est la voie royale vers Normale Sup, Polytechnique ou HEC. Aujourd'hui encore, ces filières ont la réputation d'être réservées à un milieu social très favorisé. En 2021, Julien Grenet et Cécile Bonneau rapportent dans leur enquête que les élèves issus de milieux favorisés ont 10 fois plus de chances d'intégrer une grande école que ceux de milieux défavorisés. Alors les élèves des classes prépa sont-ils tous des fils et des filles d'eux ? L'accès aux grandes écoles est-il réservé à une forme d'élite sociale ?
Vous écoutez Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. La prépa, pourquoi pas moi ? Un épisode signé Héloïse Gosselin.
C'est ça, Héloïse, enchantée. Mon camarade vient, il sort de colle, il doit arriver dans une dizaine de minutes.
Pas de problème, c'est une colle de quoi ?
Anglais. Okay. Anglais.
Pour essayer de comprendre qui sont ces étudiants de prépa, je me suis rendue à la bibliothèque universitaire de Strasbourg.
C'est vrai que nous, en tant qu'étudiants en prépa, on passe notre journée ici.
Là, je rencontre Abderrahman Boussaïdi et Amaury. Ils sont tous les deux étudiants en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, un cursus baptisé ECG.
On a réservé une salle de travail, c'est la
306.
Entre deux sessions de révision, ils ont accepté de me raconter leurs expériences.
Voilà, du coup vous pouvez vous installer, je vais me ramener le badge quand je vais finir.
Merci beaucoup. Merci.
Alors je suis né en Algérie et je suis venu en France à l'âge de 6 ans où j'ai fait ma scolarité dans une petite ville, Saint-Chamond, dans la Loire. Et au collège, j'ai fait un collège qui était en zone d'éducation prioritaire avant de passer dans un lycée qui est aussi dans un quartier prioritaire. Et après le bac, j'ai fait une année de médecine à Marseille avant de me réorienter en prépa ECG ici à Strasbourg. Moi, je sais qu'au lycée, je n'avais pas entendu parler de la prépa. J'avais plutôt un profil scientifique et la seule chose dont on m'avait parlé, c'était soit licence, physique, chimie, maths ou SVT, soit sinon médecine. Et on ne m'avait pas offert plus de choix et donc j'avais choisi médecine. Mais c'est vrai que j'avais, par exemple, je n'ai pas eu de rendez-vous avec de conseillers d'orientation. Bah, les profs ne s'inquiétaient pas de moi, donc me donnaient pas forcément ce temps-là pour parler de mon orientation, etc. Parce qu'ils disaient tout le temps que j'allais tout avoir sur Parcoursup, donc là n'était pas la question.
Pour Abderrahman, s'orienter en prépa n'allait pas de soi. Son père est agent de sécurité incendie, sa mère est femme au foyer. Il grandit dans une fratrie de 4, et je demande donc à Abderrahman si sa famille avait déjà entendu parler de la classe prépa.
Alors ils ne savaient pas du tout ce que c'était, et je crois même qu'à ce jour, ils ne comprennent toujours pas. Par exemple, des fois je me tape des 5 ans en allemand, et ma maman me dit « Pourquoi ? Mais je ne comprends pas. » Et je lui dis que toute la classe a une note en bas de la moyenne, et elle ne comprend pas, et me dit « Mais vos concours, vous allez tous les rater, etc. » Donc je crois que mes parents n'ont toujours pas forcément compris comment marchait la prépa.
Moi je m'appelle Amaury, j'ai 19 ans et je suis en prépa ECG avec Abderrahman. Quand j'étais petit je voulais être prof, ensuite je voulais être chercheur en nanotechnologie, ensuite je voulais redevenir prof, ensuite je voulais être chercheur en laboratoire pour développer des vaccins et au final mon année de terminale j'étais président d'un projet annuel de mon lycée, voilà, et j'ai bien aimé le fait de manager une équipe, de devoir récolter des fonds et tout. Et donc au dernier moment, genre juste avant Parcoursup, j'ai décidé de faire une prépa ECG. Mais c'est mes parents qui, du coup, ils m'ont parlé de la prépa, qui m'ont dit en plus ça pourrait bien correspondre pour ton profil et tout, tu devrais essayer. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en prépa ECG.
Amaury grandit, lui, dans le centre-ville de Metz. Son père est lui-même passé par une prépa scientifique.
Je sais que dans mon lycée, ils préparaient vraiment après le bac, pour les études. Pas forcément uniquement pour la prépa, mais on avait beaucoup d'informations. C'était très dur aussi. Et en prépa ECG, par exemple, dans la classe, il y a beaucoup d'élèves aussi qui viennent d'autres lycées privés et qui sont très très durs aussi avec les élèves pour bien les préparer aux études supérieures.
Moi, je sais qu'à mon arrivée en prépa ECG, j'avais l'impression de connaître moins et de savoir moins que les autres. Et j'avais toujours cette impression que c'était à cause du lycée et de la zone d'éducation prioritaire et du fait qu'on avait peut-être moins de moyens dans ce genre de lycée. Et ce qui fait que j'avais l'impression d'avoir plus de difficultés que je devais pallier par rapport à mes camarades qui venaient d'établissements plus prestigieux. Par exemple, j'ai d'énormes difficultés en maths, et les maths, c'est la matière qui est la plus importante. Et du fait de mes mauvaises informations concernant l'orientation, j'ai fait le choix d'abandonner les maths après la première et d'aller en maths appliquées, etc. Ce qui fait que j'ai cumulé un retard qui était énorme. Et en arrivant au début de la prépa, je m'étais rendu compte de ce retard qui n'a fait que s'agrandir. Et c'est vrai que souvent, je me repose ce genre de questions à cause de cela, oui. Je pense que le plus criant, c'est les cours de culture générale en prépa ECG. Donc, on a des cours de culture générale, littérature, art, philosophie, etc. Et, par exemple, très récemment, on a étudié L'étranger d'Albert Camus et j'étais à côté d'une de mes amies. Et je lui dis, je connais de nom, mais jamais lu, je l'ai jamais étudié. Elle me dit, quoi, tu l'as pas étudié au lycée? Et plusieurs fois, ça m'est arrivé où je me rends compte qu'il y a certaines choses que tout le monde avait à peu près vues et que moi, j'avais pas vues. En tout cas, surtout en culture générale, où j'avais ce truc-là de... j'ai pas toutes les références culturelles que les autres peuvent avoir en classe, et c'est ce que j'avais remarqué.
Ce dont parle Abderrahmane, c'est ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle le capital culturel. Pour lui, la réussite d'un élève n'est pas seulement liée à ses capacités intellectuelles, mais au capital culturel transmis par sa famille. Donc le goût pour la lecture, les arts ou la manière de s'exprimer, d'argumenter. Le système universitaire valorise ces codes, ces références et ces manières d'être déjà maîtrisées par certains enfants. En grandissant dans un milieu plus populaire, les chances de disposer de ce même bagage sont plus faibles, provoquant une sorte de décalage. Et c'est ce fossé qu'expérimente Abderrahmane en arrivant en prépa. Outre le gap culturel, la question financière est aussi un frein. Abderrahmane est boursier échelon 5 et ce n'est pas toujours facile de suivre le rythme de ses camarades.
La prépa, c'est quand même un cadre social que je n'avais jamais vu avant. Et par exemple, quand on va en soirée ou on va faire des restos entre la classe, j'ai vu une certaine, en tout cas surtout l'année dernière, quand j'avais ma situation financière qui était plutôt difficile, je voyais la différence entre mes camarades qui pouvaient prendre entrée plat dessert ou que sais-je, et moi qui m'arrêtais à une simple entrée, etc. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec certains de mes camarades, et par exemple, je crois qu'on est 5-6 boursiers dans ma classe au total sur 45 élèves, ce qui fait plutôt peu. Donc c'est vrai que c'était quelque chose, moi, que j'avais remarqué dès le début, quoi. L'été, pendant mon déménagement, j'avais pris mon premier job étudiant pour pouvoir financer le déménagement. Et au même moment, j'étais en train de chercher des appartements de partout. Je n'arrivais à trouver rien. Et donc, je me suis rabattu sur une petite ville qui était à côté de Strasbourg, Oswald, qui était sur la ligne de tram qui me déposait au lycée. Ça me faisait, je crois, 50 minutes de tram, mais j'avais vraiment rien trouvé d'autre. Et j'avais été refusé au Crous, donc j'avais pris un logement là-bas pour vivre cette première année à Strasbourg. En plus, j'avais fait mes recherches, j'étais vers la région lyonnaise, donc je pouvais pas visiter beaucoup d'appartements, je pouvais pas faire des allers-retours entre Strasbourg et Lyon, donc c'était un peu galère, quoi.
Et donc ça veut dire qu'en fait, t'avais à peu près 2 heures de route par jour pour aller et revenir chez toi, quoi.
Oui, c'est ça. Par exemple, si je sortais de la bibliothèque universitaire à 22h, je rentrais chez moi à 23h, 23h10. Ce qui était un peu long, quoi.
Abderrahmane, lui, est boursier. Il n'a donc rien à payer pour s'inscrire au concours des écoles de commerce. Car même si la prépa est publique, et donc gratuite, les concours, eux, sont payants. Pour les étudiants juste au-dessus du seuil des bourses, c'est un investissement lourd, parfois même dissuasif. Amaury, lui, m'a expliqué qu'il avait budgétisé ses frais de candidature à plus de 2 000 euros. Pour s'y préparer, il a déjà contracté un prêt étudiant,
Et s'il est admis dans l'une des écoles qu'il vise, il devra ensuite assumer des frais de scolarité qui tournent à minima à 10 000 euros par an. J'aurais alors posé la question à tous les deux, selon eux, la classe préparatoire est-elle vraiment accessible à n'importe quel élève ?
Non, moi je dirais que c'est pas accessible à n'importe qui. Je considère en tout cas que j'ai eu une certaine chance d'atterrir là où je suis aujourd'hui et d'avoir toujours eu de bonnes notes à l'école, ce qui fait que j'ai toujours voulu faire des études dites prestigieuses. Mais je vois tous mes camarades de classe qui étaient avec moi au lycée et au collège et la plupart sont BTS, CAP ou se sont arrêtés après le bac et travaillent actuellement.
Moi je dirais plutôt que c'est accessible à tout le monde dans le sens où tout le monde peut en faire une tant qu'on travaille, parce que c'est vraiment c'est pas une question de classe, c'est vraiment une question de quantité de travail qu'on met. Si on sait travailler, on y arrivera et on s'en sortira évidemment. On a des profs qui se battent pour faire comprendre que c'est pas restreint, et je pense que le fait qu'il y ait un peu des clichés sur le fait qu'il y ait trop de gens d'une certaine classe précise, de la classe moyenne et supérieure, justement c'est ça qui freine les élèves d'une classe inférieure, qu'ils soient pauvres ou vraiment, je pense que c'est ça qui freine plus le fait qu'on, et c'est ce qui fait qu'on a si peu d'élèves qui sont boursiers ou qui sont d'une autre classe.
Jeunes gens, bienvenue à tous. Vous le réaliserez très vite, votre nouvel établissement est prestigieux et mythique. Ces murs autour de vous peuvent en témoigner. Et de cela, vous devez être fiers. Cette année comme les suivantes, il ne s'agira pas tant de se mesurer à ceux qui fréquentent les bancs d'autres lycées d'exception, mais de trouver votre propre voie. Votre place ici, vous la devez à votre travail, fruit de la méritocratie basée sur la valeur de l'effort. Alors cette année, continuez cet effort. Faites honneur à votre potentiel. Avec toute l'équipe éducative, j'attends de vous l'engagement total et l'excellence. Si vous l'oubliez, nous serons là pour vous le rappeler. Soyez donc, mes chers élèves, à la hauteur de votre talent.
Tu crois qu'il y a autant de boursiers, Louis le Grand ?
Mais aussi de vos ambitions.
Qui est boursier ?
Merci. Un peu plus tôt, je faisais référence au sociologue Pierre Bourdieu. Dans les années 70, il fait partie de ceux qui remettent en question la notion de méritocratie, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la réussite dépend uniquement du mérite individuel et du travail personnel. Selon lui, les écoles n'effacent pas les inégalités entre élèves, au contraire, elles sélectionnent surtout ceux qui possèdent déjà les codes du monde académique. Mais est-ce encore vrai aujourd'hui ? Le nombre croissant de diplômés du supérieur et les politiques de mixité sociale laissent penser que le système scolaire souhaite donner une chance à toutes et à tous. Pour trouver des réponses, j'ai contacté Sophie Ifrig. En plus de sa casquette de sociologue, elle exerce aussi en tant que professeure de sciences sociales en classe préparatoire BL. Cette filière combine mathématiques, langues et enseignement littéraire. Nous nous rencontrons à l'angle de son établissement, le lycée Fustel de Coulanges, à Strasbourg.
Vous êtes Sophie, c'est ça ?
Exactement.
Super, enchantée.
Carrément.
Autour d'un café, je demande à Sophie Ifrig quelles seraient, selon elle, les raisons de la surreprésentation des élèves issus des classes moyennes et supérieures.
La chose, il y a déjà la connaissance des filières, en fait. La connaissance de ce que c'est qu'une classe préparatoire, à quoi ça sert, dans quel environnement ça s'inscrit, de ne pas avoir peur d'avoir deux années dans lesquelles la scolarité prend une place importante. Quand on vient justement d'une famille dans laquelle il n'y a pas forcément de parents qui ont fait d'études ou qui comprennent ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a ces éléments-là qui vont jouer. Cette idée de pouvoir se projeter, en fait, dans une classe préparatoire. Donc, par contre, le seul critère, vraiment la seule barrière à l'entrée, ce serait de n'avoir eu aucun enseignement de maths en première et terminale, donc de ne pas avoir fait l'aspect maths en première, par exemple, et l'aspect maths en terminale est un atout. Donc là, par contre, il y a une stratégie, effectivement, un peu à connaître, qui n'est pas forcément intuitive au premier abord. Donc là, peut venir jouer des éléments, effectivement, de classements sociaux qui jouent. C'est pour ça qu'en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller énormément nous rendre dans les établissements, en fait, de faire des présentations dans les établissements de nos formations et pas seulement dans les établissements strasbourgeois, mais aussi d'aller dans les zones plus rurales pour présenter la formation, expliquer les stratégies. Mais en fait, ça doit se faire bien en avant, ça doit se faire dès la seconde, en fait, quasiment maintenant, avec le choix des spécialités. Et ça, c'est quand même un élément qui rentre en compte.
En réalité, l'intégration en prépa se joue bien avant l'entrée dans le supérieur, dans les choix d'options au lycée, souvent orientés par le niveau d'information des familles, mais aussi dans la qualité d'enseignement qu'a eu l'élève. Malgré les politiques de mixité sociale et les programmes d'égalité des chances, l'accès à la prépa reste donc très dépendant de ces informations inégales, et aussi de l'autocensure de certains élèves persuadés de ne pas y avoir leur place.
Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une tendance quand même, lorsque par exemple on classe des boursiers, à ce que finalement ils ne viennent pas. Ça fait peur en fait, il y a encore cette image d'une formation qui fait peur, d'une formation qui casse, ça on peut l'avoir encore aussi, alors que ça a quand même bien évolué par rapport à la génération d'avant. Enfin, il y a beaucoup plus d'attention aussi au bien-être des élèves quand ils sont là, et à faire attention aussi d'avoir moins la violence symbolique que pouvait avoir la prépa, de dénigrer les accents, le manque de connaissances des élèves, etc.
Et donc dans le peu de boursiers, on va dire, qui ont accepté l'invitation, est-ce que vous voyez après, au cours de l'année d'Hippocagne, c'est plutôt votre place, des différences entre les étudiants qui sont boursiers et les étudiants qui sont non boursiers ?
Bon, il y a la question quand même, mais qui concerne les gens boursiers ou pas forcément boursiers, de la qualité de l'installation à Strasbourg qui va jouer. Ça, on le voit au début d'année entre des personnes, soit qui habitent encore chez les parents et dans des cadres familiaux où ça se passe bien, où l'adaptation en prépa se passe bien, soit des personnes qui habitent chez eux, mais avec des familles qui ne comprennent pas forcément que leur enfant puisse être moins disponible que ce qu'il était au lycée, par exemple. Et après, bah, soit des gens qui habitent loin de Strasbourg, mais qui ne peuvent pas prendre d'appartement à Strasbourg, donc ils vont avoir 2 heures de transport, et ça joue quand vous êtes en prépa, d'avoir 2 heures de transport par jour, qui fatiguent en fait assez vite, ou qui sont installés sur Strasbourg, et là il y a des conditions très hétérogènes, entre des gens qui sont en foyer, ça se passe très bien, des gens qui ont des appartements et ça se passe mal, parce que c'est un peu miteux. Donc voilà, là sur la qualité de l'installation, sur le début d'année, un moment qui est quand même un moment de grand changement, entrée en prépa, départ du foyer parental, ça fait des différences, clairement. Au lycée Fustel, on pâtit quand même du fait de ne pas avoir d'internat. Ça fait quand même une différence. Alors on a des chambres réservées en CROUS, il peut y avoir des possibilités, mais c'est vrai que par rapport à des lycées où vous avez un internat qui peut justement accueillir à frais réduits des étudiants, ça fait une différence. Voilà, le handicap, que ce soit de ne pas oser se projeter à Strasbourg, ou que ce soit en fait tout simplement ne pas pouvoir vivre sur Strasbourg et faire des allers-retours à un moment où quand même c'est de la fatigue en plus. Donc ça va jouer.
Est-ce que vous voyez une différence dans la façon dont ces élèves issus de milieu rural ou issus de lycées de centre-ville vivent leur année de prépa ?
Au début d'année, il peut y avoir des différences. Notamment, l'idée, c'est que les étudiants strasbourgeois, ils connaissent déjà la ville, ils ont leurs habitudes, ils ont souvent aussi leurs habitudes culturelles, d'aller à l'opéra, au théâtre. Là où ceux qui viennent de zones rurales, ça va être beaucoup moins le cas. Et ils vont parfois sentir au début d'année un décalage. Et après, au fur et à mesure, ils profitent aussi de la ville. J'ai envie de dire, en sociologie, c'est souvent d'avoir vécu ce changement social, c'est souvent un atout, et ils comprennent certaines choses que les autres ne voient pas tout de suite. J'aime bien quand je présente justement Pierre Bourdieu, commencer par son arrivée dans la prépa parisienne à Louis-le-Grand, et souvent on voit qu'il y a parfois des élèves à la fin d'heure qui font « Ah mais madame, j'ai enfin compris ce que j'ai vécu en arrivant en prépa ».
Autocensure, manque d'informations, difficultés matérielles ou crainte de ne pas pouvoir suivre le rythme très exigeant d'une classe préparatoire, autant de filtres successifs qui réduisent la diversité sociale au sein des CPGE et par ricochet des grandes écoles. Mais au fond, pourquoi défendre des classes prépa plus inclusives ? En fait, ces étudiants et étudiantes sont les futurs cadres administratifs, professeurs et faiseurs de lois de notre société. La minorité des élèves assis sur les bancs des grandes écoles détiendront la majorité du capital économique et du pouvoir décisionnel. Les têtes sont d'autant mieux pensantes qu'elles sont diverses.
C'était Périphérie, un podcast de la section radio du QEJ. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Héloïse Gosselin en novembre 2025. Coordination, Céline Asselot et Thomas Rozek. Mixage, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.